Mardi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jet FM 91.2 dans cette toute nouvelle émission hebdomadaire qui s'appelle tout simplement Mardi. Mardi comme par exemple le magazine apparemment radiophonique qui donne des idées. Une émission portée collectivement à la fois par l'équipe salariée mais aussi par les bénévoles. En direct tous les mardis de 12h à 13h, rediffusée le jeudi à 18h et également en podcast sur le site de Jet FM, donc plus aucune excuse pour ne pas l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans les studios, il y a plein de gens. Et nous sommes nombreux, pas moins d'une dizaine, pour parler santé mentale, psychiatrie, folie, selon comme on veut nommer les choses. À l'heure où les sismes, les semaines d'information à la santé mentale se terminent, il nous semblait important de continuer à parler de ce sujet à la croisée de tant d'autres. Parce que la santé mentale est aussi grande cause nationale 2025 du gouvernement. Alors, enfin, de quel gouvernement on parle? Parce que là, on ne sait plus trop. Et ce qui se passe les dossiers entre eux, ça, on ne sait pas. De toute façon, 2025, c'est bientôt fini et un nouveau gouvernement passera à autre chose. Ironie du sort, puisque de savoir que c'est une cause nationale, alors que les chiffres sont de plus en plus alarmants depuis le Covid. Un Français sur cinq est concerné chaque année par des troubles psychiques, soit environ 13 millions de personnes. Ce sont des chiffres du ministère de la Santé et de la Prévention de 2023. En France, 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. Près de 34% des salariés en 2024, soit plus de 2,5 millions d'individus, se déclarent en situation d'épuisement ou à risque. La France est le plus gros consommateur de psychotropes au monde. Plus d'un quart des Français utilisent des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères. Quant aux jeunes, les épisodes dépressifs chez les 18-24 ans sont passés en 4 ans de 11 à 20%. Et le secteur de la pédopsychiatrie est complètement sinistré. Alors, je pourrais continuer cette liste pendant longtemps, mais je vais vous donner d'autres chiffres qui font que tous ces constats sont doublement alarmants, puisqu'il faut savoir que depuis 2013, ce sont 43 500 lits qui ont été fermés dans le secteur de la santé. Donc, selon le dernier bilan de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, ce sont 4 962 lits d'hospitalisation complète, donc ça veut dire avec nuitée dans l'établissement, puisqu'aujourd'hui, on préfère être en ambulatoire, donc faire que les gens rentrent chez eux le soir. Bon, ce ne sera pas la question du jour, mais on pourra en reparler. Donc ça, c'est depuis 2023. Et donc, 1300 lits dans le secteur de la psychiatrie qui ont été supprimés. Et toutes ces baisses, elles sont essentiellement dans le secteur public. Alors, quand on voit les choix politiques des gouvernements, c'est-à-dire les baisses d'aides publiques envers la santé, le médico-social, l'éducation, la culture, on peut être quasiment sûr que cela ne va faire qu'accroître toutes ces problématiques et une précarisation à différents niveaux, et donc ne faire qu'augmenter les violences systémiques et institutionnelles, donc les personnes à risque. Heureusement que c'est une grande cause nationale. Et là, je vous parle de lits, donc d'hospitalisation, qui arrivent au moment des crises, donc des crises qui peuvent durer longtemps, mais comment on fait après, une fois que la crise est passée? Quand on doit vivre avec les troubles, qu'on se retrouve seul chez soi, quand on a perdu parfois un travail, parfois des liens familiaux, amicaux, amoureux, qu'est-ce qu'on fait? Et bien heureusement, il existe des structures, et notamment les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Ce sont des associations de loi 1901. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Pourtant, il y en a plus de 650 en France aujourd'hui. J'avais donc envie de mettre ces associations à l'honneur, car ils ont une structuration et un fonctionnement que je trouve très intéressant. Et pour découvrir ou en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir des adhérents, des salariés et des stagiaires du GEM Le Pacifique, qui est situé à Nort-sur-Erdre et à Ancenis. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Bonjour.
Alors, autour de la table, on a Cindy, Jérémy, Brice, Anthony qui sont adhérents au GEM. On aura le temps d'en reparler. On a Marine et Laïla qui sont animatrices. Et on a Martin qui est stagiaire et qui est en formation et d'éducateur spécialisé. Bonjour à tous encore une fois. Vous allez bien ?
Oui.
Oui.
Oui. Merci d'être venu. Moi, j'ai déjà assez parlé, alors c'est à vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un GEM, nous présenter les GEM? Qui est-ce qui a envie de commencer?
Alors, moi, je veux bien commencer par une petite
introduction. Vas-y, Marine.
Sur les groupes d'entraide mutuelle. Donc, ce sont des associations portées par et pour des personnes concernées par la souffrance psychique. Les GEM reposent sur le principe de la paire aidance, c'est-à-dire s'entraider entre pairs, entre personnes qui ont des mêmes troubles ou qui ont un vécu similaire. À savoir qu'il y a aussi des GEM qui sont spécialisés pour les personnes cérébro-lésées et pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Ce sont des espaces qui permettent de se retrouver, de se soutenir, d'organiser des activités en commun, de passer des moments conviviaux aussi, de créer des liens. Un des buts des GEM, c'est vraiment de créer du lien social et de rompre l'isolement. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent isolées après avoir vécu des épisodes de souffrance psychique. L'un des objectifs, c'est aussi de reprendre confiance en soi. Ça peut être de différentes manières. Ça peut être en proposant un atelier aux autres adhérents ou adhérentes. Ça peut être en s'investissant dans différentes tâches inhérentes à la vie du GEM. Alors, les adhérents et adhérentes présents ici pourront en parler plus longuement, mais ça peut être un premier accueil de personnes qui viennent découvrir le GEM. Ça peut être en faisant la comptabilité, en faisant différentes tâches qui contribuent à faire vivre l'association. C'est aussi en participant aux prises de décision qui concernent la vie de l'association. On en parlera plus longuement, mais le conseil d'administration, il est composé d'adhérents et adhérentes du GEM, donc qui sont administrateurs et administratrices. Et du coup, en ce sens, ça permet aussi de reprendre sa place dans la société en tant que citoyen, de s'émanciper aussi d'une certaine manière. On pourra revenir plus longuement sur ces principes-là, mais c'est vraiment un principe fondateur du GEM. À savoir que le GEM n'est pas un lieu de soins. Les salariés présents ne sont pas des soignants. On est des animateurs, animatrices, coordinateurs, coordinatrices. Mais un des adhérents d'un autre GEM, du GEM de Châteaubriand, qui se reconnaîtra s'il nous écoute, dit que c'est un lieu où on prend soin les uns des autres. Et ça me semble assez représentatif de l'ambiance au sein du GEM. Donc on y fait différents types d'activités que les personnes présentes ici pourront détailler. Ça peut être des activités culturelles, sportives, autour des animaux, seulement partager un repas. On pourra revenir sur les projets du moment. Une chose qui est importante à préciser aussi, c'est que le planning, il est fait tous ensemble lors des réunions de vie associative qui sont une instance qui est importante dans le GEM. Ce sont des réunions où tous les adhérents et adhérentes sont les bienvenus pour parler de la vie du GEM, de ce qui s'y passe, des projets, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et du coup, les activités qu'on fait au sein du GEM sont vraiment proposées par les adhérents et adhérentes et les salariés accompagnent dans la réalisation des différents projets. Donc pour terminer l'introduction, je dirais que c'est un lieu ouvert, dans le sens où n'importe qui se reconnaît dans les principes du GEM peut franchir la porte du GEM. On ne demande pas de diagnostic, on ne demande pas d'être adressé par quiconque. C'est un lieu convivial aussi, ça nous tient à cœur qu'il y ait des espaces comme ça dans la société où on se sente bien, des espaces bienveillants, on peut oser des choses, où on se sent accueilli comme on est. Voilà, et dans lequel les personnes se retrouvent autour d'un projet commun, de faire du commun et des choses ensemble. Voilà pour la petite introduction qui pourrait être complétée par les personnes qui m'accompagnent.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, vous venez d'un GEM qui s'appelle le Pacifique, qui est situé à la fois à Nort-sur-Erdre et à Ancenis. Donc, vous avez deux antennes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement de ce GEM-là, je ne sais pas combien vous avez d'adhérents, comment vous organisez, ce que vous y faites? Tu l'as dit, mais peut-être détailler un peu plus, là, vous, spécifiquement.
Donc oui, je peux compléter. Le GEM Pacifique est basé sur deux antennes, une sur Ancenis et une sur Nort. Ce n'est pas le cas de tous les GEM, c'est vraiment la particularité de ce GEM-là. On a à peu près 35 adhérents sur Ancenis et 35 aussi à peu près sur Nord. On a donc deux animatrices, sur chaque antenne, et puis une coordinatrice qui fait le lien entre les deux antennes. C'est deux jours par semaine à peu près. Le temps d'ouverture sur ce GEM-là est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi sur Ancenis et le lundi, mercredi, jeudi, vendredi sur Nort-sur-Erdre. Globalement, c'est ouvert tous les après-midi et puis assez régulièrement, on se retrouve toute la journée autour d'un repas convivial ou alors parce que, comme aujourd'hui, on visite la radio de GTFM et voilà, c'est toute la journée. Il y a effectivement d'autres GEM qui a des... c'est spécialisé sur des troubles. Nous, c'est vraiment tout trouble confondu ou personne isolée. On n'a pas de spécificité.
On peut se demander aussi, mais ça serait long à expliquer, mais aussi l'intérêt d'une spécificité parce que, oui. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mélanger, d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Quoi.
Oui, tout à fait. Nous, pour le coup, le GEM Pacifique, on est très ouvert et on est partie prenante sur ce fait qu'on peut s'entraider et même si on n'a pas les mêmes difficultés, c'est ça qui fait la richesse du GEM et les rencontres sont d'autant plus enrichissantes.
Est-ce que vous voulez nous préciser un petit peu, vous, ce que vous pouvez y faire, ce que vous allez chercher au GEM
Moi, je m'appelle Anthony, donc je suis venu au GEM car j'ai eu des soucis de santé, du harcèlement moral. Donc voilà. Donc heureusement, je viens au GEM parce que ça me soutient moralement, ça me permet d'avancer.
Et tu y vas souvent ?
Je vais régulièrement, ouais, je vais quasiment 4 après-midi par semaine, hein, voilà, parce qu'en fait, du fait du harcèlement moral, on est souvent isolé, et donc voilà, c'est pour ça que je viens au GEM pour créer du lien et de faire des activités ensemble pour avancer, quoi.
Et vous pouvez nous parler justement aussi, peut-être avec toi, Cindy, aussi, vous êtes administrateur ? Administratrice,
oui,
au GEM. Donc vous avez une fonction particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça vous apporte aussi
Ça apporte quand même beaucoup, dans le sens où c'est nous qui prenons les décisions étant administrateurs. Donc une fois par mois, on a des réunions où que là on valide les choix ou pas. Il y a des fois où des fois c'est un peu c'est un peu corsé quand même entre nous, où on n'est pas tout à fait d'accord sur certains points, mais on revient toujours sur les points les plus importants. Mais c'est quelque chose qui est admirable. Moi, je trouve que c'est admirable de devenir administrateur parce que du coup, on prend de la confiance en soi. Moi, je vois dans les débuts, ça faisait que un an que j'étais dans le GEM, on m'a demandé de devenir administratrice. Et ça m'a apporté énormément. Je me suis dit, ah oui, on me fait confiance. Et c'est quelque chose qu'on perd avec la maladie. Et là, le fait qu'on nous fait confiance, c'est quelque chose qui est très important, je trouve. Et voilà, quoi. Il faut venir vers nous, quoi.
Non, mais c'est vrai, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a aussi, voilà, dans un parcours psychiatrique, etc., on peut subir aussi des tas de violences. Et voilà, comme... comme tu dis aussi, perdre confiance. Et donc là, en fait, vous retrouvez un statut aussi social. Donc c'est hyper...
Oui, exactement. Parce que alors, moi, j'avais perdu confiance suite à un burn-out. Donc ça a été très compliqué après de reprendre une vie normale, ce qu'on peut dire. Parce que le monde du travail faisait peur. Et grâce au GEM, j'ai pu quand même reprendre un rythme de travail. Donc... le GEM apporte beaucoup.
Est-ce que vous voulez aussi vous exprimer sur ce que vous venez chercher au GEM ? Est-ce que vous y trouvez ? Est-ce que...
Ce qui est très bien, c'est qu'on fait beaucoup de sorties originales. On peut proposer des sorties et à chaque fois, on découvre des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant. Et en plus, on voit d'autres personnes qu'on n'avait pas vues. Parce qu'ils disent tu as dit que d'ailleurs, il y avait 35 personnes. Mais moi, au départ, je suis arrivé fin juillet. J'ai vu que 6-7 personnes. Mais après, je suis retourné un mois après. Et j'ai revu 6-7 personnes, mais ce n'étaient pas les mêmes. Donc à chaque fois, c'est des nouveautés à chaque fois, et c'est très intéressant. Parce qu'en plus, je suis très curieux, donc je m'intéresse à tout, donc c'est pour ça. Mais en plus, chaque activité est différente à chaque fois, donc c'est très intéressant. Ce n'est pas toujours basé sur toujours le même truc, comme par exemple faire les chiffres et lettres, jouer au Monopoly. Ce n'est pas que des jeux, c'est aussi des sorties, c'est aussi des découvertes, par exemple en musée, ou même on a été voir un film qui a été fait la semaine dernière, par un GEM. Justement, en 2023.
Il s'appelle comment ?
Le nom du film, c'est L'Envol des Miraculés et ça a été réalisé par le GEM de Plou Hermel.
Alors, ça fait 2 ans qu'il est sorti, mais seulement, c'est bizarre, on ne l'a pas vu au cinéma. Donc, c'est pour ça. Mais non, on l'a vu, il était très, très bien fait. Donc, en plus, il raconte les histoires, pas que du GEM, mais justement, tous les gens qui y habitent, tous les gens qui participent, avec plusieurs activités qu'il propose. Donc, c'était très intéressant. Donc,
Et ça fait une bonne transition justement avec ce que je voulais dire après, puisque donc c'est pas, comme tu dis, pas que de l'occupationnel les GEM, mais c'est aussi rentrer dans une démarche de projet, de faire des choses, et notamment la place de l'art et de la création est assez importante en général, peut-être pas forcément tout le temps, mais souvent. Et vous justement, vous avez fait un projet en particulier, un projet musical. Avec toi, Martin, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient ? Comment tu as initié ça ?
Ouais, donc moi je suis stagiaire, donc je suis en formation d'éducation spécialisée. Et donc j'étais en stage au GEM le Pacifique l'année dernière. Et bon voilà, moi je fais de la musique dans mon coin, de la MAO, quoi, surtout de la musique assistée par ordinateur. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de faire. C'est une médiation, quoi, une médiation du quotidien. Voilà. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais bon, moi c'est mon truc, c'est la musique, quoi. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire découvrir un art que je maîtrise et qui n'était pas spécialement connu par les personnes. par les adhérents et les adhérentes, quoi. Et donc voilà, on a décidé de monter ce petit projet musical. J'ai ramené des instruments de musique de mon côté, donc guitare, synthé, kalimba. Et puis après, voilà, on a utilisé aussi beaucoup de choses, beaucoup d'objets qu'on a pu trouver. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'était un peu de transmettre l'idée, en fait, qu'on peut faire de la musique sans être musicien, quoi. On peut créer un morceau sans savoir, voilà, sans connaître le solfège, sans savoir comment ça fonctionne, quoi. Et voilà, le challenge, c'était de faire ça collectivement, quoi.
Et il y a une part d'écriture aussi, puisqu'il y a des paroles. Donc j'imagine qu'il y a eu comme un atelier d'écriture ou quelque chose comme ça.
Ouais, complètement. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui s'est un peu improvisé sur le tard. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que le projet était quand même assez spontané, quoi. Il n'y avait pas de programme, en fait. L'idée, c'était voilà, de tester, d'essayer, quoi. Et c'est vrai que très rapidement, les adhérents et les adhérentes, collectivement, on s'est dit qu'un texte sur l'instru qu'on avait créé, ce serait peut-être pas mal, quoi. Ça permettrait aussi de parler un petit peu, voilà, de la santé mentale, de ce que c'est aussi, voilà. Je me souviens qu'on s'était donné des thèmes. On a un petit peu tourné autour assez librement. C'était la solidarité et l'autonomie, je crois. Donc voilà, je trouve que ça représentait bien l'esprit, la philosophie des GEM, quoi. Et voilà, on a brodé autour de ça et on a écrit un petit texte collectif.
Ok, donc vous qui êtes autour de la table, vous avez participé à cet atelier ?
Oui, bien sûr. Bah, les deux antennes, on avait Sud-Ancenis et Nord, quoi. Bah, ça a duré, je sais pas combien, genre au moins un mois ou deux, non ?
Ouais, ça, on a fait ça sur à peu près 3 mois. Ouais.
Trois mois, donc ouais. On pouvait aussi, c'est sur Internet, l'écouter aussi, si ça vous intéresse, je veux dire.
On a un peu raconté notre histoire de suicide mental. Mmh. Chacun a raconté son histoire, un petit peu, quoi.
Eh bien, mieux que ça, même, on ne va pas aller sur Internet. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant.
Ouais, pourquoi pas, voilà.
Eh bien, allez, on écoute, ça s'appelle Espoir, c'est votre création, qu'on écoute en direct sur JetFM.
Prendre soin des autres,
se sentir protégé et en sécurité pour éviter la dépression.
Ne pas se couper des autres.
La dépression est une grave maladie.
C'est difficile d'en parler.
L'amitié, c'est savoir partager et pouvoir dépasser l'ignorance.
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et nul n'a besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Alors si vous voyez quelqu'un qui a perdu le sourire, donnez-lui le vôtre.
La chose que je veux te dire,
chacun peut nous faire avancer.
Sans coup, t'as resté chez soi.
La dépression est une grave maladie.
On essaie de s'entraider pour dépasser tout cela.
Si je m'entoure de gens joyeux, eh bien, je vais mieux. C'est contagieux.
Le soutien nous fait du bien. Et c'est comme ça qu'on devient humain.
On ne juste pas.
En faisant preuve d'humanité, faisons taire l'inégalité.
On dépend toujours des autres.
Pour accepter l'autre tel qu'il est, il faut s'aimer soi-même.
Les idées noires, il faut les peindre,
mettons de la couleur dans nos cœurs.
N'oublions pas les rires.
Le sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Bravo! On vient d'écouter sur JetFM 91.2 une création musicale réalisée par le GEM Pacifique. Donc les GEM, c'est les groupes d'entraide mutuelle dont on parle aujourd'hui. Bravo à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que ça vous a... Est-ce que vous avez découvert? Donc, tu disais que c'était fait pour des non-musiciens. Vous êtes non-musicien? C'est la première fois que vous...
La première fois que je faisais la guitare électrique, là, pour moi.
Et alors?
Bah, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Ouais.
Et ça vous fait quoi quand vous écoutez le résultat, là, comme ça, ensemble? Ça vous fait quoi?
Bon, ça fait du bien, je trouve ça sympa. Chacun dit un mot sur soi ou la maladie, voilà. Donc moi, c'est agréable à écouter. On a eu un bon instro,
un bon chef d'orchestre.
Oui, non, mais autrement, un bon intro. Il n'y a pas de chiffre, un bon intro, c'est ça?
Alors moi, je trouve que les paroles sont fortes et ça représente vraiment nous, quoi, les adhérents, les administrateurs et donc le GEM en général. Quoi.
Et puis, c'est plutôt aussi une fierté de pouvoir faire quelque chose. Parce que Martin, il nous a beaucoup aidés. Ses pauvres oreilles dans les débuts avec nous, quand même. Ça, il faut l'avouer que les oreilles, il en a eu avec nous, quoi.
C'est très gratifiant d'entendre ça, quoi. Mais voilà, c'est réciproque, quoi. C'est-à-dire que moi, encore une fois, bon, voilà, clairement, je vais être transparent. C'est-à-dire que moi, je maîtrise quand même le support, quoi. Mais voilà, j'aurais pas fait un truc comme ça tout seul. Moi, j'ai été vraiment surpris par le résultat, quoi. C'est-à-dire que je fais de la musique dans mon coin, mais c'est le genre de truc que je pourrais pas faire tout seul, quoi. C'est vraiment l'intérêt d'un projet collectif, quoi. Donc, on essaye de faire vivre cette horizontalité aussi dans des projets comme ça, quoi. Et je trouve que en tout cas, moi, je l'entends bien, quoi, quand je réécoute le projet, ouais.
Eh ben, c'est très chouette, j'espère que ça va continuer. Vous en avez d'autres projets à venir dans ce sens ou... Ça dépend un peu, j'imagine, des propositions de ce qui...
Ouais, moi, c'est vrai que je suis plus en stage là-bas. Oui. J'ai gardé un bon contact, quoi, mais après, il y a plein d'autres supports. Encore une fois, c'est une médiation, il y en a d'autres. Hein.
Bah après, il y a un nouveau stagiaire, du coup, donc on verra ce que ça va, donner. Non,
c'est ça, on attend beaucoup de lui. Ouais. Donc,
Donc ça vient de vous aussi.
Oui, on va être sympa.
Tous ensemble.
Avec vos envies.
Tous ensemble, comme d'habitude.
Ok, et ben...
Il est bien le venu, on l'accueille. Et
et ben, on a aussi Emmanuel qui est avec nous, qui est adhérent au J'aime le Nouveau Cap à Nantes, qui est situé Gare Sud. Et Emmanuel, je t'ai invité parce que en fait, on fait de la radio ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gros ponts entre les radios associatives et les J'aime en France. Il y a beaucoup de J'aime qui font des émissions de radio parce que c'est aussi un grand moyen d'expression et de permettre de justement visibiliser les personnes et les propos qu'on n'entend pas souvent. Et donc, toi, tu fais partie de cet atelier radio, mais tu mènes carrément l'atelier d'écriture au GEM, t'écris beaucoup. Et du coup, je t'ai demandé, est-ce que tu voulais bien écrire un petit texte pour cette émission? T'as accepté volontiers, je t'en remercie. Donc, tu as fait courir ta plume au gré de tes pensées. Je propose qu'on t'écoute.
On est docile grâce à la chimie des neuroleptiques. On dit aussi abruti par les médicaments. Ce qui incite certains d'entre nous à quitter l'hospitalisation à Saint-Jacques en sachant qu'on oubliera de prendre la dose au prochain dîner. La folie a un petit côté excitant. Et respecter la posologie revient à se taper un ralentissement du cerveau, une libido en berne, une haleine fétide. Ce que les médecins ne veulent pas pour eux. La psychiatrie ne sait rien de la maladie. C'est un pansement sur nos troubles. Il nous enferme pendant des mois. En réalité, on est des guerriers et on se bat contre des voix que personne n'entend. Notre force, c'est notre lutte contre l'injustice d'une tête éparse dans le chaos d'un soi déchu. La psy nous prend pour des fous. On est schizophrène ou bipolaire ou diagnostiqué à vie. On prend ce mot en pleine gueule et on fait avec. On devient un bon schizophrène, comme on peut être un bon secrétaire. On note quand ça va, quand ça va pas, et que le discernement fuit. On vit avec ses troubles sans que le psychiatre y puisse quoi que ce soit. certains restent à vie en crise psychotique aiguë et à part avaler une pilule avec effet secondaire grave, voire mortel, on ne peut rien faire, rarement passer un instant béni de plénitude. À l'hôpital, j'ai été enfermé 3 mois, total au début, puis des sorties le week-end, avec une psychiatre référente à la socialisation cassante, une bureaucrate du rééquilibrage psychique. J'avais débarqué dans le monde de la folie pure, avec cette professionnelle définissant ma personne par des propos au goût acide qui rongent les fleurs qui poussent dans le désert de la psychose profonde. Les relations distantes évitent de prendre le parti des états psychiques dénaturés. J'aurais voulu me cacher dans un trou pour ne rien, plus rien voir ni entendre. Je souhaite maintenant qu'il y ait eu des zones de réconfort. Quand les amis ont plus ou moins fui, reste la psychiatrie. Je suis passé à l'hôpital 2 jours, puis dans un centre de post-cure. Dans le fumoir de l'hôpital 2 jours, on ne parlait pas ou peu. Est-ce que l'ennui était à but thérapeutique? On s'ennuie et on nous tient par la main pour faire des activités comme casser des bouts de carrelage pour les coller et faire de la mosaïque. Je voudrais faire des choses, changer mon temps contre la force, où qu'elle soit. Dans le livre de 3 auteurs, dont Hervé Guillemin, intitulé « La fin de l'asile », on entend que la folie disparaît quand on devient bon à quelque chose, comme se réconcilier avec le bien. Car c'est déstructurant d'entendre partout qu'on n'y arrivera pas, pas la peine d'essayer, t'es malade. Les asiles entraînent la chronicisation des troubles psy et le monde se ferme, lit-on aussi dans cet ouvrage. Que les dirigeants hésitent donc à la tentation de les réinstitutionnaliser. Dans les cas sévères, il y a la chambre d'isolement et la contention, parfois utilisée par les équipes soignantes, en remplacement du manque de personnel, manque qui touche davantage de parents pauvres de la médecine qu'est la psychiatrie. Une personne sur 4 est ou sera confrontée par un trouble mental. On devrait donc se sentir concerné, comme dans une ville de Belgique nommée Geel, où les habitants prennent soin des personnes en souffrance psychique. Ici, on balaie le vieux mythe du fou dangereux. On inclut les gens différents, mais qui au fond peut être parfois bien profond, n'ont qu'une envie partagée avec leurs semblables. Les mannequins anorexiques défilent sur les podiums. Les villes ouvrent des groupes d'entraide mutuelle pour intégrer les psychés déréglés en son sein. Un animateur radio se déclare bipolaire. Le Covid augmente la prévalence des troubles psy. C'est beaucoup pour un mal qui veut rester caché, qui fait honte. Alors la psychiatrie devrait être un moteur d'inclusion et non pas ces hôpitaux qui ferment à clé après que vous y soyez rentrés.
Merci beaucoup pour ce très beau texte, comme d'habitude, avec beaucoup de choses dedans. On voit aussi un peu voilà, tout ce qu'on peut vivre dans un tel parcours. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que ça vous...
C'est la vérité.
En tout cas, c'est un point de vue.
Non, mais c'est très bien écrit. En plus, il y avait beaucoup d'images qui étaient vraiment flagrantes. Donc, ce qui se passe, c'est pas que maintenant, mais ça fait plusieurs années, même décennies, que c'est comme ça, justement. Donc, mais maintenant, ça fait quasiment 1 ou 2 ans qu'il y a plus en plus de gens qui parlent, qui en parlent, justement, de ce qu'ils disent des problèmes psychiatriques. À la base, on croyait que c'était des fous. Mais il y a l'animateur radio qui a dit qu'il était bipolaire. Et maintenant, même avant, ça en parle un peu, et maintenant, ça en parle beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. On n'est plus pris pour des fous, justement. On est pris pour des personnes à peu près sérieuses, avec des petits problèmes de santé. C'est des petits problèmes de santé, hein. Donc, c'est pour ça. Donc, et c'est très bien.
Moi, j'ajouterais qu'en fait, les maladies mentales, pour la personne qui le vit, c'est très difficile à vivre. Et il faut vivre avec, essayer d'avancer avec.
Et c'est pour ça que les GEM sont aussi un moyen de refaire du lien et de ne pas se sentir seul.
En fait, les GEM sont là pour aider ces gens qui ont des difficultés psychiques. Ça permet à ces gens-là de retrouver une confiance.
Oui.
Et puis de miser sur les rapports sociaux, quoi, sur le lien social surtout. Quoi.
Oui, oui.
Essayer de voir la psychiatrie d'un autre point de vue que celui de la pathologie tout le temps.
Et de la médication. Et ouais.
En fait, le GEM sert aux personnes qui ont des difficultés psychiques à se créer des liens entre eux pour qu'ils puissent se comprendre, s'aider. Quoi.
Et ce qui est intéressant avec le GEM aussi, c'est qu'on ne demande pas à la nouvelle personne qui arrive son parcours, sa maladie. Il n'y a pas d'étiquette qui est déposée sur cette personne. Et c'est très précieux pour ces personnes qui sont dans des situations fragiles ou qui sont isolées parce qu'elles ont justement besoin d'un lieu qui les accueille assez simplement, sans poser de mots ou de barrières qui enferment encore plus la personne. Et ça, c'est vraiment la richesse du GEM.
Je rajouterais juste aussi que c'est même une des missions du GEM de participer à la déstigmatisation des troubles psychiques, justement, et de parler de la santé mentale qui peut concerner tout un chacun à un moment donné de son parcours, quelqu'un de son entourage. J'étais qu'il y avait plus de 50% des personnes, la population française, qui disaient avoir été en souffrance psychique lors des 12 derniers mois. Enfin, on se rend compte que c'est énorme et que ça peut toucher tout le monde et que c'est des problématiques sociétales, en fait, à prendre en compte et que c'est à penser collectivement. Et les GEM permettent d'avoir cet espace pour ça.
Tout à fait. Et ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, mais toujours dans la même thématique. On va écouter Astéréotypie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe de post-punk qui est né d'un atelier de poésie auprès de jeunes souffrant de troubles du spectre de l'autisme dans un institut médico-social. Donc, maintenant, Astéréotypie font des concerts dans toute la France avec les plus grands noms du rock indépendant. Ou peut-être que vous, on ne sait jamais, c'est pas ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, je vous propose... Ah oui, et d'ailleurs, ils sont en concert jeudi prochain à Stéréolux, le 30 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et je vous propose qu'on écoute le morceau Le Cachet qui va résonner avec ton texte, Emmanuel.
C'est quoi le cachet ?
Oui, écoutez la musique.
Je vais vous le dire.
Ça va ?
Oui. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Ça dépend. Si mon comportement est inadapté, il faut l'arrêter quand on a un comportement adapté. Je suis mieux quand je suis sans. On dit soit le médicament, soit le traitement. Quand je l'ai dans mon estomac, je me sens pas bien. C'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Si je ne le prends pas, je mourrai à 100 ans. Si je le prends, je mourrai à 30 ans. Je me sentirai bien toute ma vie. Ça sert pour me calmer, mais ça m'empêche de me réveiller. J'aimerais pouvoir me calmer sans médicaments. Les gouttes, ça sert à endormir le corps. Ça m'emmerde le médicament, ça pourrit mes dents. Le docteur n'est pas un monstre, mais il m'a donné un produit dangereux. Je veux pouvoir réfléchir, ne pas passer ma vie à dormir. C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue, quand est-ce qu'on va l'arrêter ?
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans l'émission Mardi du Mardi. Et on vient d'écouter Astéréotypie. Est-ce que vous voulez réagir à cette chanson ? Est-ce que ça vous évoque des choses ou pas ? On passe à autre chose sinon. Mais...
Moi, j'adore cette chanson.
Ah bah, voilà. Donc en tout cas, en concert jeudi prochain, si ça vous dit, Astéréolux à Nantes. Il y a aussi une autre particularité de votre GEM, c'est que vous êtes en milieu rural. Est-ce que ça a une incidence ? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à un GEM en ville où on sait qu'aussi que les villes et que les milieux urbains sont générateurs de souffrances psychiques ? Est-ce que justement à la campagne, c'est différent ?
Oui, à la campagne, il y a beaucoup moins de monde dans la ville, enfin je veux dire dans la ville d'Anceny ou de Nord. Et pour moi, c'est important parce qu'on voit moins de personnes et j'ai l'impression qu'on souffre moins aussi. Voilà.
Mais en même temps, ça fait peur. Parce que alors, moi, quand j'étais à l'hôpital et après, il y avait la sortie, on fait quoi ? On est lâché quand même un peu comme ça. Et heureusement, pendant mon hospitalisation, il y a eu le GEM qui était venu et qui a pu contribuer finalement à la sortie d'un côté, parce que je savais que je pouvais y aller les voir. Mais dans le milieu rural, on est quand même un peu seul parce qu'il y a moins de médecins. Il y a les psys, c'est bien beau, mais on n'en a pas beaucoup, même pratiquement plus non plus. Donc on est un peu aussi seul face à ça. Donc c'est vrai que le GEM, en tout cas, il est là, mais ce n'est pas un lieu médical. Mais entre nous, on se soutient et c'est ça nos armes en fait. Et c'est ça notre médicament en fait, c'est nous en fait.
C'est la relation aussi avec les autres là.
C'était très bien dit, moi, ouais, je trouve. Cette idée de dire que, voilà, que c'est cette solidarité, notre médicament, moi je trouve que c'est... on aurait pu mettre ça dans la chanson, quoi.
Ouais. Désolé Martin, je viens de l'avoir.
L'inspiration vient maintenant.
C'est vrai que ça fait du bien, même le GEM, cette pause et tout ça, je veux dire...
Des personnes comme nous, peut-être sans les GEM, on serait peut-être à la rue.
Ouais, c'est ça.
En plus, tu parles de GEM rural, mais on est à côté de, à 30 mètres, il y a une boulangerie. À 50 mètres, il y a un bar. Donc, c'est pas si rural que ça. On n'est pas isolé non plus. On est dans une petite ville. Mais moi, je préfère ça qu'à une grande ville. Parce que, au départ, quand tu habites en Seine-Saint-Denis, tu dois te taper une heure de transport en commun pour aller à un GEM. Alors qu'il n'y a qu'un seul GEM en Seine-Saint-Denis. Alors que là, il y en a plusieurs, justement. Donc, c'est très intéressant. Je trouve ça plus réconfortant et plus calme et plus sûr.
Ouais, mais tu vois, moi, vers chez moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas une boulangerie. Donc, tu vois, moi, je suis seule dans ma campagne. Bah, j'ai des voisins, évidemment, mais voilà, je suis seule dans la campagne. Donc, quand on te dit « rentre chez toi parce que tu n'as plus rien à faire ici », tu fais quoi ?
Ce qu'on peut noter aussi comme différence entre les GEM rurales et les GEM urbains, c'est qu'il y a la difficulté de transport à certains moments. On fait des temps de premier accueil pour accueillir éventuellement des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées pour intégrer le GEM. Et en fait, c'est des personnes qui sont dans la campagne, qui sont isolées et qui rencontrent des difficultés de transport parce que soit elles n'ont pas leur permis, mais soit elles ne sont pas en capacité non plus de prendre un véhicule. Et du coup, assez souvent, on accueille des gens qui seraient intéressés, mais qui ne peuvent pas venir par un moyen quelconque dans notre GEM. Et ça, ça fait une différence assez importante entre les GEM de ville et les GEM de campagne.
Ouais. Oui, moi, ce que je voyais, c'était comme problématique majeure, c'était le transport et puis l'isolement, le fait qu'il y a peu de dispositifs, peu de ressources qui existent, et d'où l'intérêt qu'il y ait plus de lieux comme ça. Et on pourra faire le lien avec la plaine après.
Mais... Eh ben, très bonne transition, puisque c'est le moment, justement. Voilà, je voulais vous parler d'un autre projet, une autre alternative locale et une autre manière de penser la santé mentale dans un super projet collectif, c'est la plaine. C'est un lieu de répit qui est en train de se mettre en place dans la campagne de Guémené-Penfao, donc on reste dans le nord du département. Alors malheureusement, personne ne pouvait venir ce midi en plateau, mais je leur ai demandé à distance de répondre à quelques questions pour nous présenter ce qu'est ce projet. Et Lise Buisson nous explique tout, je vous propose qu'on écoute.
Mais alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à parler de la plaine. Donc, il y a une association qui existe depuis 2022 en Pays de Redon et qui est administrée par un collège de 13 habitants-habitantes qui sont concernés ou en tout cas à minima sensibilisés à la souffrance psychique et qui sont issus d'horizons différents, que ce soit le médico-social, le bâtiment, la psychologie, la père aidance, l'accueil, l'accompagnement paysan, la gestion de lieux collectifs... Enfin bref, un collectif très riche que je vais essayer de représenter au mieux. Donc moi, je m'appelle Lise Buisson et quand je me suis installée du côté de Redon en 2024, je reprenais des études en psychologie avec le rêve à terme de monter un tiers-lieu dédié à la santé mentale. Donc j'ai eu la chance de rencontrer et de rejoindre les membres de l'association La Plaine qui réfléchissaient déjà dans la direction d'un lieu de vie et d'accueil en santé mentale. Donc plus largement, l'objet de la plaine, c'est de soutenir les personnes en souffrance psychique et leurs aidantes et aidants. L'ambition, ça va être vraiment de lutter contre l'isolement et les impuissances individuelles en poursuivant plutôt le développement d'une santé mentale dans la communauté. Donc quand on dit ça, derrière, déjà ça veut dire prendre en compte les déterminants sociaux, professionnels, administratifs, etc. et les rapports de domination qui vont impacter la santé mentale. Et faire des difficultés, rencontrer une question non pas individuelle, mais vraiment collective. Et du coup, l'idée, ça va être d'inscrire justement le collectif, d'activer un réseau, etc., dans la perspective du rétablissement de la personne. Ça veut dire qu'au-delà en fait, des limitations qui vont être rencontrées, on va se concentrer sur les ressources et les aspirations. Dans cette perspective, l'association elle anime régulièrement des rendez-vous sur le territoire pour le plus grand public, en mettant à l'honneur les thématiques autour de la souffrance psychique et de la santé mentale. Je peux citer par exemple un café BD, dernièrement le ciné-club atypique qui est coordonné par plusieurs structures en Pays de Redon. Et le second volet, on va dire, qui nous porte, c'est l'ouverture d'un lieu de répit et d'accueil de la souffrance psychique. En fait, on imagine un lieu qui permettrait un accueil de jour, inspiré des groupes d'entraide mutuelle. Mais aussi, l'idée, ce serait d'avoir 10 à 12 places d'hébergement pour des séjours de répit temporaire, où en fait, on pourrait poser ses valises dans ce lieu quelque temps. Pour l'instant, on s'est dit entre quelques semaines et 3 mois. Pour couper d'un quotidien qui est devenu trop difficile, trouver un ailleurs, respirer un peu. Et l'idée sur ce lieu, c'est de pouvoir s'inscrire et de participer à un quotidien partagé, que ce soit en se faisant à manger ensemble, ce genre de choses. Et aussi avoir la possibilité de participer à des activités sur le site, mettre les mains dans la terre, la cultiver, etc., etc. Mais aussi de profiter des sorties sur le territoire environnement. Ce lieu, on l'imagine avec un accueil inconditionnel. En tout cas, on aimerait beaucoup fonctionner sur le principe qu'il est accessible à tous les adultes en souffrance psychique, quel que soit leur statut financier ou administratif. Notamment, on aimerait que ce ne soit pas conditionné à la reconnaissance institutionnelle du handicap. Et donc, au-delà de ce qu'on y fera sur ce lieu, l'idée, c'est aussi de l'inscrire dans un réseau et dans une démarche de recherche-action permanente, donc avec d'autres lieux, avec les services publics, etc., pour que ce réseau se nourrisse mutuellement et fasse évoluer les savoirs et les pratiques autour de l'accueil de la souffrance psychique aujourd'hui. À l'origine de ce lieu dont on rêve, il y a plusieurs constats. Si on parle de chiffres, on évoque souvent que d'après l'OMS, il y a une personne sur 5 aujourd'hui en France qui est touchée par un trouble psychique tous les ans. Et ça, c'est aussi à mettre en regard du service public, de l'hôpital, qui est de toujours plus fragilisé et qui, aujourd'hui, se concentre vraiment sur l'accueil de la crise, parce qu'il n'a pas possibilité d'en faire plus. Et puis aussi le constat dans différents parcours que des fois, le passage à l'hôpital, c'est pas ce qui va être adapté, c'est pas ce qui va faire du bien et peut-être même au contraire dans certains cas. Et donc il y a cette urgence à créer des lieux qui soient certes solidaires du service public, mais qui proposent autre chose et qui s'inscrivent vraiment en complémentarité. Au-delà de ces constats, il y a aussi un retour d'expérience où pour le coup Christophe, Julie et Alexandre en parleraient vraiment mieux que moi. Puisque ces trois membres du collectif, avant la plaine, ils ont cofondé la TRAM, qui est un dispositif d'accueil, d'orientation et de soutien dans la communauté à Saint-Denis. Et une des limites de ce lieu-là, de cette expérience, c'est que elle ne palliait pas peut-être au besoin de se mettre au vert. Donc finalement, ça a vraiment été un terreau pour penser le projet de la plaine et l'inscrire dans un territoire plus rural. Et en effet, en parlant de territoire, l'asso a d'ores et déjà acquis un lieu. Donc on a 3 bâtiments sur 1,5 hectare de terrain à peu près. Donc un magnifique terrain à Raporé. Et il s'inscrit vraiment dans la campagne, mais assez proche du bourg de Guémené-Pinfaux. Actuellement, on rentre vraiment dans la phase de réhabilitation de ce lieu. Donc concrètement, on est en recherche de fonds pour financer les travaux. Et ce qui est chouette, c'est que avant même cette période de chantier, le lieu vit déjà, notamment parce que tous les 2 mois environ, on active des chantiers collectifs et aussi parce qu'on accueille des premiers séjours tests de projets ou d'initiatives qui sont liées à la plaine. On a par exemple eu la chance d'accueillir un groupe de la TRAM en visite et on a aussi accueilli Clément, qui est porteur du projet This is Insane et qui anime un infokiosque autour de l'autodétermination, l'auto-organisation dans les soins, autour du questionnement du soin psychiatrique, des témoignages, des outils. Je peux également citer Lucie, qui, de par son activité professionnelle en tant que membre du réseau Accueil Paysan, Lucie, elle est déjà en présence et de par cette activité, en fait, elle permet une veille sur le lieu, mais surtout, elle lui confère vraiment une dimension d'accueil, notamment avec les animaux qui sont sur place, et qui fait que ce lieu, c'est déjà un lieu où on se sent bien, parce que la question de l'espace et la question du soin sont articulées, intimement imbriquées, et que ce lieu, il est d'ores et déjà pensé comme un support et un outil du soin. Alors, pour nous aider aujourd'hui, alors déjà, il est possible de donner du temps et de l'énergie en venant nous donner un coup de main sur les chantiers collectifs. Donc, on communique les dates via notre newsletter ou via nos réseaux sociaux. Et bien sûr, il est possible aussi de faire des contributions financières. D'ailleurs, en ce moment même, on est en pleine campagne de financement participatif. Avec l'objectif de réunir la somme nécessaire aux études préalables au chantier. Donc cette campagne de crowdfunding, elle est retrouvable via notre site. Et n'hésitez pas à y participer ou à en parler autour de vous, c'est extrêmement précieux pour nous.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans l'émission Mardi et on vient d'écouter donc Lise Buisson qui fait partie du collectif de La Plaine. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur leur site, c'est laplaine-asso.org. Et comme elle le disait, il y a si vous voulez les soutenir là en ce moment, il y a une campagne sur Hello Asso, vous pouvez la retrouver à La Plaine via La Plaine Vie Bretagne, pardon. Ils demandent 15 000 euros, enfin ils espèrent atteindre 15 000 euros, là ils sont à 10 500, donc on peut se dire que ça va marcher. En tout cas, c'est vraiment des lieux qui sont très précieux aussi et des projets très précieux, donc n'hésitez pas à les soutenir. Et c'est pas trop trop loin, pas si loin de chez vous, mais voilà, on espère en tout cas qu'ils pourront aller à terme de leur projet. Avant qu'on finisse, vraiment, comment est-ce que, enfin vous l'avez dit, c'est un peu inconditionnel aussi, vous l'accueillez, mais si quelqu'un écoute et se dit, je veux aller, j'aimerais bien aller voir, comment ça se passe, on toque et on vient ou...
Non, en fait, on a un essai de 3 sessions avant de s'inscrire et payer du coup.
Il vaut mieux d'abord appeler pour avoir un rendez-vous, parce qu'il y a des temps du premier accueil. Et du coup, c'est là qu'on est vraiment en petit groupe. Hein. Généralement, il y a la salariée Marine ou Leïla et un adhérent qui est présent. Et du coup, on peut lui faire découvrir le lieu. Ça évite qu'il y ait trop de monde, parce que des fois, ça peut être affolant de voir plein de personnes. Donc du coup, non, il faut appeler. Et là, on donne un rendez-vous et après...
Ok. Donc, comme ça, un accompagnement après individualisé, c'est ok, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas chez vous si vous avez. Alors, il y a des gemmes, il y en a vraiment beaucoup en... Quel est notre département ? La Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, il y en a plusieurs à Nantes, il y en a à Cholet, il y en a à Saint-Nazaire, Châteaubriant, donc Nord-sur-Erdre et Ancenis.
Château, Savenay, tout ça.
Voilà, Pontchâteau, Savenay. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à aller appeler pour ne serait-ce qu'avoir des renseignements et puis aller visiter.
Moi, je dis ça vaut le coup quand même. Juste, c'est vraiment un lieu de pas de soins, mais où ça fait du bien de parler, de voilà quoi.
Moi, il y a pas longtemps, on m'a dit c'est pas un lieu sanitaire, mais c'est un lieu de soins. Mais c'est pas un lieu sanitaire parce que comme vous disiez, c'est quand même un lieu où on, en fait, on prend soin et donc c'est quand même, ça fait partie du parcours de rétablissement quand même et d'aller mieux.
C'est un endroit où ça peut aller mieux, ça c'est sûr. Mais...
Le fait de parler et d'être écouté, ouais. Ça aide beaucoup parce que des fois on reste isolé et on fait rien. Alors que là, justement, au GEM, en plus, on découvre des DJ super connus. Donc c'est
je pense que le GEM permet le rétablissement. Voilà.
Eh bien, c'est une très belle conclusion. Alors, j'avais prévu de faire des petits conseils lecture. Donc, on va juste dire deux mots parce qu'on a pris du retard. Mais c'était super, il fallait que vous ayez plein de choses à dire. Donc, c'est génial. Donc, je veux juste, sur le sujet, vous recommander un livre qui s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adélion, qui est une enquête familiale et un essai à la fois sur son arrière-grand-mère qui a été diagnostiquée. Souffrant de schizophrénie dans les années 50, qui a été internée et qui a subi plusieurs lobotomies. Et donc, elle suit une enquête. C'est assez bouleversant comme livre. Je vous le recommande. Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon. Et tu avais une recommandation, pareil, je vais te demander d'aller assez vite.
Ouais. Moi, je voulais recommander un bouquin de Mathieu Bellassène, donc un psychiatre. Ça s'appelle La santé mentale vers un bonheur sous contrôle. C'est un bouquin qui m'a énormément inspiré. Donc, c'est un petit tour d'horizon voilà, de la psychiatrie contemporaine très violente, là, voilà, qui a pour seul but de réadapter les individus dysfonctionnels à une société capitaliste voilà, qui est très violente, quoi. Et donc voilà, c'est un bouquin qui n'est pas forcément très marrant, mais qui au moins propose des solutions. Voilà, moi, voilà, petite dédicace à la petite dernière partie de ce livre qui propose voilà, d'autres façons en fait, de s'occuper de la question de la santé mentale, et voilà, comme on le disait, notamment à travers la question du lien social, quoi.
Et Mathieu Bellassène, qui est médecin psychiatre et lanceur d'alerte, donc c'est aussi quelqu'un à suivre. On peut l'écouter aussi souvent parler. Ouais, c'est ouais. Une référence très précieuse.
Très inspirant.
Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Bravo. Je voulais juste dire que ce soir, mardi 21 octobre, n'hésitez pas à vous rendre à Magma sur l'île de Nantes, à Nantes, puisque c'est un food hall, comme il se nomme, puisque Jet FM y sera une fois par mois en direct de 19h à 20h30. Et que ce soir, c'est la première à l'occasion des Utopiales, le Festival international de la science-fiction, qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre. Il sera question pour cette première émission ce soir de science et de fiction, donc des liens entre science et imaginaire, avec trois invités, notamment un auteur de bande dessinée, la directrice de la Cité des Imaginaires et un astrophysicien. Donc voilà, quel programme, il faut venir absolument. Et si vous ne pouvez pas venir, c'est en direct. Donc pareil, vous n'avez aucune excuse pour ne pas écouter. Et en plus, ça sera rediffusé la semaine prochaine dans ce même créneau. Voilà, et là, on se quitte avec une capsule sonore qui s'appelle Pensée locale. C'est un programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Qui, à travers la diffusion de reportages hebdomadaires, va au plus près des questions de proximité et de localité. Et cette fois, c'est RCF Sarthe qui a tendu son micro à la Ferté-Bernard lors d'une journée citoyenne sur la santé de demain. Quelle belle transition, voilà. Alors, espérons que la santé de demain sera plus mieux prise en compte que celle d'aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Bonne merci. Continuation.
Merci.
Et après, à 13h, on poursuivra avec l'émission Trapanel. Bon après-midi sur Jet.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
La Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, CRSA, s'est réunie à la Ferté-Bernard. Dans un contexte où la santé est en crise en France depuis plusieurs années, les régions cherchent des idées innovantes, des moyens de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les bénéficiaires du système de santé. L'objectif de cette journée, c'est donc de recueillir les avis, les propositions des citoyens pour résoudre les enjeux de santé en Sarthe. Didier Fauchard siège à la CRSA Pays de la Loire. Il explique ce qui a motivé cette démarche.
Alors, au sein de la CRSA, on a souhaité poser la question de comment les citoyens aujourd'hui s'emparent du sujet de la santé. Et plutôt que rester sur une vision macro au titre des représentations qu'on peut avoir à la commission plénière, on a eu l'intention, le docteur Collin a dit, ça serait bien qu'on aille embarquer le sujet sur un territoire. Et c'est le territoire de la Sarthe où il y a eu un lien avec un CPTS qui a accepté d'être le co-porteur du projet. Et donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des citoyens et de parler des sujets de santé avec ces publics-là. Le sujet de la santé est un sujet majeur, parce que maintenant on parle plutôt des santé plurielles, que ce soit la santé mentale, la santé physique et tout ce qui peut être lié avec la santé environnementale. Donc le sujet est un sujet qui est transverse à tous les publics. C'est un sujet qui est questionné parfois que sur un regard à l'accès aux soins, avec la difficulté qui peut être celle d'un territoire comme la Sarthe, d'avoir des difficultés à pouvoir rencontrer un médecin, avoir des rendez-vous ou avoir un simple médecin traitant. Il n'empêche que ce n'est pas que la Sarthe qui est confrontée à cette situation-là, c'est des situations qui sont confrontées sur l'ensemble du territoire, avec des points un peu plus saillants, notamment sur des territoires plus isolés en ruralité. Peut-être que vers la question de la relation, le aller vers que peuvent faire des associations comme on a sur le territoire, peut-être qu'il faut s'emparer de ces ressources-là et peut-être les déployer et de retrouver les bonnes coordinations.
Les enjeux sont grands, la situation de la santé dans le département est la même qu'à l'échelle nationale, déserts médicaux, manque de moyens. Pour répondre à cela, il faut concevoir la santé d'une autre façon, et c'est ce que propose la CRSA Pays de la Loire.
Il est nécessaire pour autant de se rappeler que la santé ne peut pas être que portée par les seuls soignants, Et l'enjeu, elle est aussi de questionner la vision de la santé, plutôt une santé communautaire, dans laquelle on peut trouver la place de d'autres acteurs professionnels de santé. Aux côtés des médecins, on avait la CPTS, un bon exemple, avec la place des professionnels de santé, des médecins, des infirmières en pratique avancée. Mais également d'autres acteurs sur les territoires qui peuvent contribuer aussi à rendre cette place d'une santé, surtout sur des sujets de promotion en santé, pour qu'on aille vers le médecin en se posant peut-être les questions qui ne soient pas que les questions curatives, mais aussi les questions de bien-être et de rapport au vivre ensemble et tout ce qui peut être partagé sur ces temps-là. Tout l'enjeu, en fait, c'est de questionner la façon dont aujourd'hui les soins ou la santé est organisée sur les territoires et de peut-être trouver la meilleure efficacité pour répondre aux besoins en santé avec les différents acteurs présents. Et effectivement, on ne pourra pas inventer des médecins dans les dizaines d'années à venir. Par contre, on peut penser que pour répondre aux sujets de santé, avec cet acteur pivot qu'est le médecin, un certain nombre d'acteurs peuvent participer à la coordination des soins en essayant d'apporter les bons éléments, puisque parfois la santé, elle est fragile simplement parce que les gens sont en perte de lien social et que ce n'est pas le fait d'avoir un médecin ou de rendre visite au médecin qui feront que la personne retrouvera ce lien social, mais peut-être que vers la question de la relation, l'aller vers que peuvent faire des associations comme on a sur le territoire, peut-être qu'il faut s'emparer de ces ressources-là et peut-être les déployer et de retrouver les bonnes coordinations.
Cette initiative veut aussi réunir des professionnels de santé pour communiquer sur ce qui est déjà mis en place pour les citoyens. Catherine Gallois travaille à l'hôpital de la Ferté-Bernard et elle décrit la situation de l'hôpital.
Effectivement, on a actuellement des problématiques de personnel et on recherche aussi également à développer l'offre de soins de façon à pouvoir étoffer le plus possible cette offre.
Catherine Gallois est agent de cadre à la direction des soins de l'hôpital de la Ferté-Bernard. Pour elle, cet événement est important.
Plus l'hôpital participera à ce type de manifestation, on a déjà aussi également organisé une porte ouverte début septembre pour présenter notre hôpital. En fait, permet aussi à la population de se rendre compte de ce qui est proposé sur la Ferté. Pour cette journée, on est venu présenter l'offre de soins de l'hôpital de la Ferté-Bernard, ce qu'il est possible de proposer en spécialité auprès des usagers, de façon à en faire la promotion.
Au-delà de la promotion des services proposés dans ce territoire, ces journées ont pour but d'instaurer une subsidiarité, de faire monter les décisions du terrain plutôt que de les faire descendre du ministère de la Santé. C'est ce qu'explique Didier Fauchard.
Aujourd'hui, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'identifier un certain nombre de points et de les amener simplement, comme vous le voyez sur les post-it, à leur dire sur ce sujet-là, sur ces questions-là, quelles sont pour vous les réponses qu'il faudrait apporter. Donc on a questionné les citoyens. Voilà, l'idée, c'est de questionner les citoyens, leur demander un certain nombre de propositions, d'identifier des points qui sont peut-être des points un peu plus saillants. Donc il y a des points qui remontent un peu plus, qui sont des points pour lesquels il nous semble qu'il y aurait peut-être une priorité à agir ou à se concerter. Et tout l'enjeu après va être de se dire, mais par rapport à ces points-là, c'est les points que les citoyens nous font remonter. En tant que démocratie en santé, on en fait part à nos partenaires, et notamment en premier lieu à l'ARS, et de définir d'ailleurs quelles seraient les lignes d'action qu'on peut mettre en place pour répondre à ces questions que les citoyens nous ont posées en proximité. On peut penser, au regard du nombre de personnes présentes, que les citoyens s'emparent de ce sujet de la santé et souhaitent l'éclairer avec leur point de vue. On en fera une analyse très rapide, mais qui va être un peu frustrante à l'issue de la journée, en faisant ressortir sur chaque atelier des points forts, des propositions qui nous ont été faites. Après, moi, je vais donner un avis à titre personnel, qui n'engage que moi, mais qui sera apporté au sein de la plénière et de la CRSA. C'est de se dire que parmi les propositions qui ont été faites ici, si j'illustre ça sur des points qui ont été remontés sur mon atelier en prévention, on se dit qu'il y a plutôt une infobésité de sujets et de remontées d'informations concernant la prévention. Par contre, on ne sait pas comment la cibler, comment l'orienter. Donc peut-être que ce n'est pas la question de la quantité, mais c'est quel accès j'ai à ces sujets de prévention. Peut-être travailler sur un guichet unique qui permet de renseigner les personnes plutôt qu'aller se disperser sur X acteurs qui donnent de l'information. Donc il y a peut-être un travail de coordination à faire par rapport à ça. Mais simplement le dire n'aurait pas de sens. L'enjeu pour moi, ce serait de se dire, est-ce que sur le territoire qui a été le nôtre aujourd'hui, est-ce qu'en lien avec les collectivités, en lien avec la CPTS, en lien avec les acteurs ARS et les acteurs éducation nationale, puisque le sujet de l'éducation a été posé, et le tissu associatif, on est capable de mesurer à moyen terme, à 6 mois, à 1 an, avant d'engager un autre territoire, se dire, ces sujets-là, la façon de s'en emparer, On a soulevé quelques points et ces points-là, ils ont fait l'objet d'une attention particulière. Aujourd'hui, on sait qu'à la mairie, par exemple, de La Ferté, on est capable d'avoir cette information parce qu'on a souhaité que ce soit celle-ci. On a vu des secteurs, des entreprises qui se sont tournés vers la CPTS pour dire bah, « Nous, quand on cherche à présenter un sujet, on a un public captif que sont nos salariés. » C'est évoqué. Est-ce que vous êtes capable de le faire? L'enjeu, ce sera de vérifier qu'on est capable de le faire.
Une autre solution, la prévention. Dans une situation où le système de santé est en crise, limiter les cas qui demandent une intervention permet de diminuer l'engorgement des hôpitaux et des cabinets de médecins. Edith Alix, présidente de l'échelon local de la MSA sur la Ferté-Bernard, propose justement des formations pour les professionnels.
La MSA, en dehors de son rôle de protection sociale que tout le monde connaît, pour le milieu des adhérents agricoles, propose également des actions pour les adhérents et non-adhérents, en particulier de nombreux ateliers. Sur le plan professionnel, on va orienter les ateliers sur des thèmes bien précis, liés à l'élevage, au machinisme aussi. Et sur le plan non-professionnel, des ateliers qui ont un caractère plus général. Et donc aujourd'hui, nous avions choisi de parler du sommeil des enfants, avec un quiz que nous avons présenté sur notre stand. Nous réalisons également des actions que nous appelons ateliers, qui sont ouverts à tout public. J'en donne quelques exemples, type atelier nutrition, qui est animé par un professionnel de la nutrition, un nutritionniste. Des ateliers sur la mémoire, des ateliers sur le bien vieillir, le bien-être également. Ce sont quelques exemples. Dirigés vers les enfants, on organise également des ateliers sur les écrans. Aujourd'hui, c'est le sommeil, mais on a fait également sur les écrans. Il peut y en avoir aussi sur des mises en garde sur les réseaux sociaux également. Je pense que oui, ça peut aider les personnes qui reçoivent ces informations ou ces formations à se préserver ou à préserver leur santé mentale, psychique et à mieux comprendre notre fonctionnement propre. Et si on peut œuvrer dans ce sens grâce à nos ateliers, eh bien, c'est tout bénéfice pour tout le monde.
Les décisions et propositions évoquées au long de cette journée doivent ensuite pouvoir s'appliquer. C'est du ressort de la CRSA Pays de la Loire qui est en lien à la fois avec les acteurs de santé de la région et l'Agence régionale santé de Pays de la Loire.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.